Oubliez les préjugés et la morgue qu'on attribue de manière caricaturale aux influenceurs. Pour de vrai, ce sont des créateurs de contenu et non des panneaux publicitaires. Ils n'hésiteront pas à vous le dire, d'ailleurs, si vous essayez de les utiliser et de les manipuler, ni même à refuser vos partenariats. Créateurs de contenu, voilà un joli vocable. C'est celui qui est choisi par les influenceurs interviewés par l'agence Reach, une agence d'influence qui a mené une étude auprès d'environ 1500 influenceurs fin 2020. Pour tout connaître de cette étude, j'ai interviewé Guillaume Doki-Tonon, cofondateur de Reach et co-auteur d'un livre sur l'influence. Cette étude permet de mettre des chiffres sur l'influence et de rétablir quelques vérités sur les influenceurs. Avant tout, créateurs de contenu, ils sont certes nombreux, mais peu sont ceux qui vivent de cette activité qui correspond souvent à un appoint de revenu. Enfin, loin d'être des panneaux publicitaires, ils savent refuser les partenariats qui ne mettent en valeur leur créativité. Enfin, dernier point et non des moindres, les blogs sont à l'honneur, ainsi que le contenu long, mettant également un point final à tous les non-sens entendus ici et là sur le contenu à consommer sur le pouce, le snackable content, et à la prétendue mémoire de poisson rouge des lecteurs, autant de préjugés et de fausses idées dont les marketeurs doivent se départir. Et pour cela, nous les invitons à écouter ce podcast éclairant, et qui est éclairant, mais qui cependant a malheureusement subi un problème technique pour lequel nous vous prions de nous excuser.
Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion.
Je suis avec Guillaume Doki-Tonon. Bonjour Guillaume, tu es CEO et cofondateur de Reach, on ne te présente plus, tu es l'auteur aussi d'un livre sur l'influence avec Camille Jourdain, et nous allons parler aujourd'hui d'une étude que tu viens de publier sur le marketing d'influence. Alors le marketing d'influence qui a pris un sacré bond avec le Covid.
Exactement, exactement. Bah, bonjour Yann, je suis très content de participer à cet enregistrement. Et oui, ça a été un des résultats qui nous a le plus marqué de l'étude, c'est le bond qu'a fait le marketing d'influence, puisqu'il y a un chiffre, c'est qu'il y a plus de 50% des influenceurs qui ont reçu plus de demandes de partenariat en 2020 qu'en 2019.
Donc ça commence à représenter un sacré cheptel maintenant de l'influence. On a une idée du nombre de personnes qui sont des influenceurs?
Alors en France, on l'estime à 150 000 influenceurs en France, 150 000 comptes influents, et globalement dans le monde, on serait autour de 10 millions.
Ah oui, donc, oui, ça commence à représenter quelque chose.
C'est un sacré cheptel, comme tu dis.
Effectivement. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans ton étude, c'est que tu nous dis, ils sont 67% à préférer qu'on privilégie le thème de créateur de contenu. Je me reconnais bien là-dedans, d'ailleurs.
Ben, en fait, c'est un constat qu'on avait fait parce qu'il y a un côté péjoratif au terme d'influenceur. On a l'impression que leur rôle n'est que faire la promotion de produits et influencer les comportements d'achat. Or, c'est qu'une partie de leur métier. On savait que en général, quand on leur demande, on se rendait souvent compte qu'ils n'aimaient pas être appelés influenceurs. Là, on a posé directement la question, on s'est dit, il nous faut un chiffre pour le prouver, enfin, et puis l'amener ce chiffre-là au grand public, pour que tout le monde se dise que le terme ne correspond pas. C'est vrai que le terme de créateur de contenu, qui est d'ailleurs le terme le plus utilisé aux États-Unis, hein, puisqu'aux États-Unis, on va souvent parler de content creator ou de talent, et on se rend compte que c'est ce terme par lequel ils préfèrent être appelés, et que c'est plus représentatif de l'ensemble de leur travail.
On voit de temps en temps des clients qui essayent de nous utiliser pour pousser des contenus, et il faut passer des fois un peu de temps pour leur expliquer que ben non, en fait, on ne fait pas ça, surtout pas le contenu des autres. Mais bon, des fois, il y a un peu de mal. Bon, c'est intéressant, ça commence à bien mûrir tout ça. Alors là, on parle plutôt du B2C quand même, non?
Alors c'est vrai qu'il y a évidemment plus d'influenceurs qui traitent de sujets B2C. Maintenant, le B2B n'est pas inexistant de l'influence marketing. Nous, on a fait pas mal d'opérations. Tu vois, on fait des opérations pour Michelin, pour une cible de routiers. Et donc, on est allé trouver un influenceur qui s'adresse à des routiers. Tu vois, il existe des influenceurs qui s'adressent à des professionnels. Il y a une vraie émergence début d'année en début 2020 d'influenceurs agriculteurs, des jeunes agriculteurs qui parlent de leur métier et qui touchent d'autres agriculteurs, au-delà de toucher en plus le grand public. Donc, et puis il y en a évidemment dans la communication, dans le marketing, je ne t'apprends rien. Donc il y a quand même des influenceurs qui traitent de sujets B2B, même si c'est vrai que les marques B2B ont encore parfois un peu de ont l'impression que les influenceurs c'est que pour la mode et la beauté, et pourtant tu vois, il y a les chiffres le montrent, hein, il y a 5% des influenceurs qui traitent de sujets business ou entrepreneuriat.
D'où l'intérêt d'insister sur ce terme de content creators ou de créateurs de contenu pour peut-être repositionner le travail de tous ces gens-là dont je pense que Visionary Marketing fait partie. Et alors la moyenne d'âge des créateurs, là par contre, là on n'en fait pas partie, c'est un peu normal, en B2B on est un petit peu plus vieux que la moyenne, et c'est des gens qui sont quand même assez jeunes dans l'ensemble.
Écoute, la moyenne d'âge, elle est de 30 ans cette année, elle était de 29 l'année dernière, donc tu vois, ils vieillissent comme... Après, c'était une question importante de l'étude, parce que, si tu veux, l'origine de cette étude, c'est aussi de casser beaucoup de préjugés qu'on a sur le monde de l'influence marketing. Et je suis parfois convié dans des émissions de radio ou dans les médias, et quand ce sont des médias grand public, pour eux, les influenceurs, c'est forcément des ados. Mmh. Et on avait envie de montrer que l'écosystème des influenceurs, il était beaucoup plus large que ça. Et donc voilà, on a une moyenne d'âge de 30 ans, on a quand même finalement quasiment 25% des influenceurs qui ont plus de 35 ans. On a des influenceurs qui ont entre 50 et 60 ans, donc c'est aussi des chiffres qui nous paraissaient intéressants de montrer au marché.
Oui, absolument. Et puis d'ailleurs, on a aussi des influenceuses, parce que 74% de ces créateurs de contenu, ben, en fait, sont des créatrices de contenu.
Exactement.
Alors, et comme tu le dis, parfois, pas toujours très jeunes. D'ailleurs, on a fait un article là-dessus sur TikTok où on montre des influenceuses qui sont plus toutes jeunes. Il y en avait une qui avait 56 ans, donc effectivement. Et alors, justement, en parlant de TikTok, parce que c'est quand même le phénomène de l'année, hein, 41% des créateurs se sont inscrits sur TikTok, c'est un raz-de-marée.
Alors TikTok, ouais, c'est autant l'influence marketing a fait un bond, autant TikTok, tu as raison, c'est un raz-de-marée. Côté influenceur du moins, c'est un réseau qui a bénéficié de notre surconnexion pendant le confinement. Mmh. C'est un réseau qui, pendant le confinement, a aussi recruté une cible un peu plus âgée que sa cible traditionnelle. Tu sais, TikTok, historiquement, c'est une cible très jeune. Et beaucoup d'utilisateurs et d'influenceurs l'ont testé pendant le confinement et certains sont restés. Et donc, la cible, c'est un peu vieilli sur TikTok. Maintenant, ça reste encore un réseau qui n'est pas forcément sur le podium des partenariats. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui s'y sont inscrits, mais les marques restent encore un peu en retrait. Elles ont envie de voir, elles attendent des précurseurs, des marques précurseurs qui y vont, de voir les résultats, d'avoir encore des preuves du ROI avant de se lancer à fond dans TikTok.
Alors donc, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ça devient un métier également. Mais pas pour la totalité de ces gens-là, il y a quoi, 15% c'est ça
qui sont... 15%, oui, 15% qui sont influenceurs à temps plein, qui sont créateurs de contenu et qui potentiellement peuvent être amenés à vivre de cette activité. C'est aussi un préjugé qu'il y a sur le monde des influenceurs. On a l'impression que les influenceurs, c'est comme que tout le monde est comme Enjoy Phoenix ou Norman, que tout le monde gagne beaucoup d'argent avec leurs réseaux sociaux. C'est pas le cas de l'écosystème. J'ai trouvé une comparaison qui était intéressante. J'étais avec Philippe Vandel sur Europe 1 Culture Média, et il disait c'est comme dans l'écriture. Il y a beaucoup de gens qui écrivent, il y a beaucoup de Français, il y avait des études là-dessus, c'était assez impressionnant du nombre de personnes qui écrivent, mais ceux qui en vivent se comptent en centaines. Alors sur les influenceurs, c'est plutôt des milliers, mais c'est un peu la même comparaison.
Oui, bah, c'est vrai dans tous les métiers de création, on trouve ça dans la musique aussi. Il y a certainement beaucoup plus d'argent qui va dans la poche de Madonna ou de Lady Gaga que du pauvre groupe indépendant qui, malheureusement, en plus en ce moment, se tourne les pouces. Alors d'ailleurs, les 6% de ces créateurs
seulement gagne plus de 20 000 euros par an. Alors on ne sait pas si c'est du brut ou du net ou du chiffre d'affaires, mais bon, enfin, c'est sur des sommes quand même très modestes.
Oui, c'est la corollaire de ce qu'on vient de voir. C'est pour beaucoup d'entre eux, donc 85%, moi je considère que la rémunération qu'ils vont toucher, le chiffre d'affaires qu'ils vont faire, on n'est pas dans une rémunération qui permet d'en vivre. Ça permet surtout de continuer à développer leur passion. C'est-à-dire qu'un créateur de contenu, forcément, pour faire son métier, il a aussi besoin de matos, il a besoin de bons outils pour capter le son, il a besoin d'un bon ordinateur pour faire ses montages. Et en fait, quand des influenceurs vont gagner 5000 euros par an, on se rend bien compte que c'est pas pour en vivre, mais plutôt pour continuer dans le développement de cette passion. Ouais.
Ça permet de payer le nouvel ordinateur à la mode. Alors, ce que j'aime bien également dans cette étude, là, c'est de la musique à mes oreilles qui répète inlassablement, je suis breton, hein, c'est un peu normal, depuis 25 ans que le blog n'est pas mort. Et là, tu nous dis, bah non, le blog n'est pas mort. Il n'est vraiment pas mort. Ça, c'est une bonne nouvelle.
C'est la confirmation, ça fait un... En fait, c'est assez... Le blog, c'est l'historique de l'influence marketing, hein, parce que quand tu demandes aux influenceurs, il y en a beaucoup d'entre eux qui ont commencé blogueurs. J'imagine que c'est ton cas. Certains réseaux ont explosé parce que l'ouverture du blog aux autres réseaux a permis a surtout fait que tout le monde pouvait devenir influenceur. C'est-à-dire que dans le blog, il y avait une certaine difficulté à tenir un blog, des difficultés techniques. Et quand Instagram est arrivé, on a enlevé toutes ces difficultés techniques. C'était facile pour tout le monde de créer un compte Instagram et de commencer à créer du contenu. Pour autant, on se rend compte que les annonceurs restent assez attachés au blog parce que c'est du contenu qui est pérenne, parce qu'il y a une qualité de contenu dans la... ce sont des articles qui sont longs, explicatifs, parce que les gens ils peuvent y revenir, parce que le trafic sur les blogs peut continuer d'augmenter à travers le temps. Il y a beaucoup d'avantages et donc il y a beaucoup d'annonceurs qui restent attachés au blog.
Et alors là, justement, on parle des médias sociaux. Il se passe beaucoup de choses dans les médias sociaux en ce moment, des choses qui ne sont pas forcément très agréables à entendre pour notamment les plateformes. Il y a eu des menaces de démantèlement de Facebook, par exemple. Il y aura probablement encore d'autres poursuites. Bon, il y en a contre Google, mais qui lui a quitté les médias sociaux. Mais bon, toujours est-il qu'il y a aussi des menaces qui ont pesé sur TikTok cet été, qui se sont un peu relâchées, mais enfin, c'est pas dit que ça va pas revenir. Tout ça, c'est un environnement qui est un peu instable quand même, et finalement, le blog, il a peut-être cet avantage, c'est de rester stable dans la durée sur ce.
C'est vrai que étant le lieu d'expression historique et de voir qu'il est toujours là, c'est rassurant. C'est même rassurant aussi pour les autres réseaux sociaux. Tu as raison, l'environnement, il est instable. Ça prouve néanmoins qu'on est quand même dans le cœur du réacteur. Quand on voit tout ce qui se passe autour des réseaux sociaux et la manière dont c'est médiatisé, on voit bien que ce n'est pas un effet de mode et qu'on est vraiment dans un bouleversement sociétal. Et pour nous, en tant que cofondateur de Reach et avec les équipes, c'est assez excitant de travailler dans ce domaine parce qu'on a vraiment l'impression d'être au milieu de... vraiment dans le cœur du réacteur, quoi. Pour revenir sur ton explication, ça peut expliquer la performance et la position dans le classement des blogs.
Tout à fait. Je pense que, d'ailleurs, pour rester optimiste, hein, ces menaces de démantèlement sont au contraire plutôt une bonne nouvelle et probablement le signe du départ d'une nouvelle ère pour les médias sociaux qui ne disparaîtront pas, qui se transformeront en autre chose, mais c'est certain que la fonction crée l'organe. Alors, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que des fois, nos créateurs de contenu, hein, puisqu'il faut les appeler comme ça, n'hésitent pas à dire non à un partenariat. C'est intéressant, ça. 3 créateurs sur 4 ont refusé au moins un partenariat avec une marque cette année. Ça, c'est intéressant. C'est peut-être aussi un renversement de tendance en termes de rapport de force entre les marques et les influenceurs ou créateurs de contenu, plutôt.
Les créateurs de contenu sont sélectifs, ça c'est important. Ce n'est pas des panneaux publicitaires, c'est des gens qui vont, les bons créateurs de contenu vont passer beaucoup de temps à regarder la marque, le produit, les valeurs et savoir s'ils ont envie de bosser avec cette marque ou pas. On est en 2020, en général, il y a eu plus de demandes de partenariat, donc ça a permis aux créateurs d'être plus sélectifs et donc de pouvoir faire plus attention aux marques avec lesquelles ils allaient s'associer. sachant qu'en plus, on est dans une tendance où la marque et le créateur vont vouloir s'associer sur une plus longue durée. C'est ce qui est beaucoup recherché dans l'influence marketing, c'est des partenariats type ambassadeur ou fil rouge. Mm-hmm. Donc, pour ça, il faut être sûr de la marque avec qui on a envie de s'associer. Et en l'occurrence, refuser quand ça ne nous plaît pas.
D'ailleurs, et on va conclure là-dessus, le point central dans ton étude, enfin dans la conclusion de ton étude, c'est que finalement, pour qu'un partenariat se passe bien entre un créateur de contenu et une marque, c'est qu'il faut leur accorder de la liberté. C'est intéressant, ça.
Exactement. Moi, quand je discute avec les annonceurs, je leur dis qu'il faut que vous changez de paradigme, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'annonceur, il passe 30% de son temps à identifier l'influenceur avec qui il va travailler. Et puis ensuite, il passe 70% de son temps à le cadrer, à lui dire « Ah, mais ça me plaît pas la manière dont le contenu est fait, j'aurais plutôt fait comme ci, comme ça. » En fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut passer beaucoup plus de temps à analyser l'influenceur, regarder comment il a l'habitude de faire des partenariats, comment il prend la parole. Et à partir du moment où on a analysé tout ça, et ben forcément, on sait ce qui va se passer, puisqu'on sait que selon la manière dont il prend la parole avant, on sait comment il va la prendre pour la marque. Et donc, on a passé plus de temps à sélectionner l'influenceur, et donc on sait qu'il va être pertinent. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme qui doit avoir lieu dans le fonctionnement des annonceurs, qu'ils passent plus de temps à analyser les influenceurs pour ensuite leur laisser plus de liberté, et ça fera des meilleurs partenariats.
Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de baladodiffusion.